Donc Bruno, vous avez déjà fait un panorama assez exhaustif, effectivement, de ce qu'est le tourisme. Je voudrais juste, après lui, insister sur deux ou trois aspects. La première chose, c'est que le tourisme, c'est une économie, une vraie économie. J'allais dire une industrie, mais le mot est peut-être un peu péjoratif, mais en tout cas une économie qui pèse très lourd financièrement. Bruno vous a présenté quelques chiffres. Et c'est surtout une économie qui est présentielle et donc qui est non délocalisable. Enfin, je veux dire, le tourisme à Lourdes restera à Lourdes jusqu'à la fin des temps parce qu'il est totalement indélocalisable. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante. À une époque où on a effectivement plus de 3 millions de chômeurs, je pense qu'effectivement, pouvoir travailler sur une économie qui ne peut pas se délocaliser à l'étranger, c'est déjà un atout extrêmement important. Je vais vous raconter une anecdote, parce que en fait, le tourisme, ce n'est pas ma profession. J'étais agent en tourisme à Biarritz, et c'est là que j'ai appris ce qu'était effectivement la réalité du tourisme. Et quand j'étais agent en tourisme, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de participer à l'IMEX. L'IMEX, c'est le plus grand salon de tourisme d'affaires du monde qui se déroule chaque année à Francfort. Eh bien, à l'IMEX, vous avez 40 000 visiteurs. Vous avez 9 000 acheteurs professionnels qui sont invités aux frais de l'organisation, donc des représentants de tour opérateurs, d'agences événementielles, etc. Tous ces gens-là sont invités, leurs billets d'avion sont payés, leurs nuits d'hôtel sont payées par les organisateurs de l'IMEX. Le salon est absolument gigantesque et j'y ai vu des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé sans les avoir vues. Le stand, ou du moins un des stands les plus somptueux de l'IMEX, un stand immense qui a dû coûter environ des centaines de millions d'euros, personne ne trouvera, donc je vais vous le dire, c'est Abu Dhabi. Donc, comme Bruno tout à l'heure évoquait effectivement l'existence d'une concurrence touristique mondiale, c'est une absolue réalité. Et avec la baisse du prix des transports, clairement le prix des billets d'avion avec les compagnies low cost, etc., ne fait que baisser. Ça veut dire que des destinations nationales proches se trouvent en concurrence directe du fait des prix avec des concurrences beaucoup plus lointaines. Et donc, clairement, chose qui était inimaginable, ne serait-ce qu'une dizaine ou une vingtaine d'années, Abu Dhabi peut être un concurrent direct de Lourdes ou de Biarritz. Et ça, c'est une donnée qu'il faut véritablement intégrer. C'est un monde qui devient extrêmement concurrentiel et dans lequel il va falloir se battre ardemment si on veut continuer à exister, à maintenir, voire à augmenter nos parts de marché. Alors, un petit point quand même sur le 64. Hein, c'est une réunion conjointe à Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées. Donc, quelques chiffres juste pour caractériser le tourisme en Pyrénées-Atlantiques, qui lui aussi est forcément une activité très importante du département. Donc, ça représente 9 000 emplois directs. Par rapport au bassin de population, c'est très important. 2 600 entreprises, donc tous les prestataires de services. Hein, quand on parle de tourisme, on parle bien sûr très spontanément des hôteliers, par exemple, mais il y a les hôteliers, les restaurateurs et toutes les entreprises de prestation de services qui tournent autour, hein, en particulier en tourisme d'affaires, qui est une dimension importante du tourisme à Biarritz, une activité d'organisation de congrès qui est très intense. Il y a tous les gens qui fournissent les moyens son, les moyens vidéo, etc. Sur le département, nous avons 74 000 lits marchands. Donc, les lits marchands, en fait, ce sont les lits d'hôtel, les lits de camping, donc enfin, les gens qui sont des professionnels de l'hébergement, mais également beaucoup plus de lits non marchands. J'ai oublié le chiffre, mais Marie-Agnès va nous le montrer tout de suite. 167 000 lits non marchands. Donc, là, effectivement, on parle d'hébergeurs privés, de type Airbnb aujourd'hui, ou autre. Et dernier chiffre. Pratiquement 1 milliard d'euros de retombées économiques à l'échelle d'un département. Donc, quand je parlais tout à l'heure effectivement d'une économie qui pèse lourd, oui, c'est véritablement une économie qui pèse très lourd. Mais c'est aussi une économie, une activité qui est extrêmement complexe et mouvante. Bruno l'a évoqué tout à l'heure, les choses sont en train de changer de manière drastique et de manière extrêmement rapide. Et donc, pour caractériser un petit peu ces changements qui s'ouvrent devant l'industrie touristique, on va dire que c'est un marché qui est essentiellement caractérisé par la lettre M. Donc c'est un marché qui est météo-réactif. Je pense que vous le constatez à Lourdes comme ailleurs. Les gens sont de plus en plus sensibles à la météo. Je vais noter quelques chiffres que je ne connais pas de mémoire, donc je vais les lire. 63% des touristes prennent leur décision en fonction de la météo. Donc les gens prennent leur décision de départ de plus en plus tardivement, et ce phénomène est encore accentué par le fait qu'effectivement, ils consultent la météo et ils prennent leur décision en fonction des données météorologiques. Donc le week-end prochain, il fait beau, on va à Biarritz, on va à Lourdes. Et à contrario, 28% n'hésitent pas à écourter leur séjour si les conditions météo ne leur conviennent pas. Il pleut à Biarritz, on ne peut pas aller à la plage, on va ailleurs. C'est aussi un marché qui devient multisaison. Aujourd'hui, de plus en plus de Français, on est sur du pratiquement 30% qui partent plus de 4 fois par an. Donc, moi je me rappelle dans mon enfance à Biarritz, on avait les juilletistes qui restaient un mois et les aoussiens qui restaient un mois. Ça, c'est typiquement un mode de consommation touristique qui a fait totalement long feu. Aujourd'hui, les gens prennent des vacances plus courtes, mais plus nombreuses et mieux réparties sur l'année. Ce qui est qui a des côtés extrêmement positifs. Parce que sinon, effectivement, on se retrouve avec une surpopulation touristique sur la très haute saison et un désert touristique le reste de l'année. Pour les acteurs économiques du territoire, c'était très difficile à gérer. Aujourd'hui, on tend vers effectivement des séjours plus courts, mais plus nombreux et mieux répartis sur la totalité des 12 mois de l'année. C'est aussi un tourisme malin. C'est une tendance sociologique lourde, mais qui se traduit de manière très prégnante dans le tourisme. Les gens veulent voyager le mieux possible pour le moins cher possible. Donc, d'où le succès effectivement de sites comme l'évoquait Bruno, comme lastminute.com, où effectivement en choisissant son voyage au dernier moment, on peut avoir du discount, des réductions, etc., et partir pour pas cher. Et ce type de comportement est vraiment maintenant vraiment ancré dans le comportement psychologique des acheteurs. Tourisme mosaïque, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens, au cours d'un séjour, au cours d'un voyage, ils veulent tout. Ils veulent du sport, ils veulent de l'émotion, ils veulent de la culture, ils veulent de la gastronomie. Il n'y a plus vraiment... Alors, c'est vrai que Bruno nous a fait la longue liste des types. J'ai appris d'ailleurs ce que c'était que la tafophilie, parce que finalement, je ne savais pas ce que c'était, donc je ne coucherai moins de bêtes ce soir. Donc effectivement, on peut avoir envie de tafophilie, mais aussi avoir envie de manger un bon plat de salade et de visiter un musée qui tienne un peu la route. Le move, alors c'est un terme un peu branchouille, le move, effectivement, ça concerne essentiellement la clientèle jeune, les 18-35 ans, qui vont aussi faire du tourisme, généralement de courts séjours, mais pour se faire des émotions. Typiquement, les fêtes de Bayonne, c'est ça. Les fêtes de Bayonne, en l'espace de 4 jours, c'est 1 million de personnes qui déferlent sur Bayonne, et ces gens-là, ils veulent s'amuser. Pendant 4 jours, ils veulent faire la tête, ils veulent une fête, ils veulent boire, et ça, effectivement, c'est ce genre de produit entre guillemets touristique qui connaît un succès vraiment croissant. Ensuite, le M-tourisme ou le e-tourisme, c'est clair que le numérique est un atout absolument incontournable du tourisme aujourd'hui. Faire du tourisme aujourd'hui, a fortiori demain, sans être totalement impliqué dans un usage intelligent des nouvelles technologies, Internet, mobile, applications, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc., ça sera rigoureusement impossible. Et rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur la concurrence, l'outil numérique, bien utilisé, sera l'arme fatale du tourisme du 21e siècle. Incontournable. Et pour finir, c'est aussi un tourisme marqué, au sens où effectivement, le tourisme, c'est aussi une logique de marketing territorial, et que qui dit marketing territorial dit marque. Alors on a la chance à Biarritz d'avoir été désigné marque forte, donc avec la marque Biarritz Pays Basque, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ça date de juin 2014, suite aux assises du tourisme qui avaient rassemblé tous les professionnels français pendant plus de 6 mois, et qui avait été animé à l'époque par Laurent Fabius quand il était ministre des Affaires étrangères. Il y a eu un certain nombre de décisions, à mon sens, relativement intelligentes, voire très intelligentes pour certaines qui avaient été prises, et en particulier, effectivement, la désignation au niveau national de 20 marques fortes, l'idée étant de dire que pour que les efforts de promotion du tourisme en France soient efficaces à l'étranger, cette promotion ne devait pas s'éparpiller, mais au contraire être concentrée sur 20 marques. Et effectivement, on a eu la chance à Biarritz de faire partie de ces 20 marques, et clairement, c'est extrêmement efficace. Autour de cette marque, on a développé un premier contrat de destination qui s'appelle Biarritz Destination Golf, où on a rassemblé effectivement autour de cette marque Biarritz, on a fédéré tous les golfs du sud des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, des hôteliers, Air France avec le programme Flying Blue pour transporter les sacs de golf, le comité départemental du tourisme, le comité régional d'Aquitaine du tourisme, et effectivement avec la perspective de la Ryder Cup en 2018, c'est quelque chose qui marche très bien et on arrive effectivement à attirer sur le territoire un public de touristes golfeurs et au-delà. Et là, c'est un cas de demi-secret, donc je vais vous le dire, on est en train de travailler sur un contrat de destination surf. Forcément, à Biarritz, ça fait aussi partie des vecteurs d'attractivité forte de notre ville. Donc voilà, logique de marketing territorial, donc logique de marque. Donc effectivement, je crois que le slogan dont vous parlez, Bruno, lourde l'inspiratrice, oui, ça va clairement dans le bon sens, parce qu'il faut effectivement identifier chaque territoire avec ses avantages différentiels, sa spécificité, et que les gens le comprennent vite et bien. Pour finir, parce que je pense que le plus intéressant, ça sera qu'on discute, qu'on soit plus interactif que ça. Dans toute activité commerciale, mais dans le tourisme en particulier, ce qui est important, c'est de bien comprendre le parcours client. C'est-à-dire effectivement comment le client arrive à acheter le produit ou le service que vous voulez lui proposer. Et donc effectivement, quand on parle de tourisme, la première chose, c'est l'inspiration. Effectivement, comment est-ce que les gens ont tout d'un coup envie de venir à Lourdes, à Biarritz, ou partir aux Bahamas, etc. La deuxième chose, effectivement, une fois qu'on a cette idée, on est tous pareils, on va chercher, on va comparer de manière à essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix du voyage ou du séjour dont on a envie. Ensuite, il y a la phase du choix final. Donc effectivement, j'ai comparé et je choisis le produit, la prestation, le package qui me convient le mieux. Et je réserve. Je réserve mes billets d'avion, mes billets de train, je réserve mon hôtel. De plus en plus, on réserve d'ailleurs à l'avance des visites, des billets de tickets d'entrée dans des musées, etc. Ensuite, bien évidemment, il y a toute la phase de préparation du voyage qui va largement au-delà du fait de faire ses valises. Donc, effectivement, si on va à l'étranger, il faut penser à ses visas et le cas échéant ses vaccins, etc. Ensuite, il y a la phase du voyage proprement dite. Et ensuite, le voyage, une fois terminé, il y a la phase de récit. Alors, on n'est plus comme autrefois, les affreuses soirées diapositives, vous savez, avec lesquelles on en kikine voisins et amis. Forcément, maintenant, les choses ont changé. Et donc, ça veut dire que côté fournisseur, côté prestataire, il faut absolument coller à cette logique et être présent à chacun des étapes de ce parcours client. Donc, effectivement, pour créer de l'inspiration, là, il faut faire rêver. Il faut projeter une belle image de marque, et là encore une fois, le numérique, avec aujourd'hui tous les outils type photo, vidéo, Instagram, YouTube, etc., est un outil majeur. Faire rêver les gens à base de belles images, à base de belles histoires, etc. Ensuite, recherche comparaison, bon, il faut faire venir les gens, il faut leur donner cette envie, marquer les spécificités positives du territoire, de la destination, etc. Ensuite, il faut faire acheter, donc là aussi, il faut leur simplifier la vie. Donc effectivement, des systèmes de réservation en ligne. Là aussi, ce qui est très important dans un parcours client, quel qu'il soit, c'est que chaque étape soit la plus fluide et la plus facile. Que les gens progressent vers la décision d'achat de la manière la plus simple. Chaque fois qu'ils vont rencontrer une difficulté, on court le risque qu'ils abandonnent en cours de route et qu'ils se tournent vers une autre solution, vers un autre prestataire, vers une autre destination. Donc plus on leur aplanira le terrain, plus on fera en sorte que ce voyage soit simple et agréable, et mieux on se portera. De la même manière, effectivement, pour la préparation, faciliter en communiquant des informations pratiques de la manière la plus ludique, la plus agréable, etc. Le voyage, le séjour proprement dit, il faut l'accompagner. On parlait tout à l'heure, Bruno parlait tout à l'heure, bien sûr, de qualité de service, de qualité d'accueil. Alors, force est de constater que ce n'est pas forcément la vertu française la plus répandue. Et qu'on a franchement, mon activité professionnelle me mène à voyager pas mal à l'étranger, franchement, on a beaucoup de leçons à prendre à l'étranger. Enfin, je veux dire, aller dîner dans un restaurant américain, que vous comprendrez ce que ça veut dire que d'être vraiment accueilli dans un restaurant. Vraiment. En France, comment dire, il y a des marges d'amélioration, on va dire, sur le sujet. Et puis ensuite, le récit, effectivement, il faut faciliter ce récit. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la fidélisation. C'est-à-dire, des gens qui sont satisfaits du séjour qu'ils auront fait à Lourdes, si effectivement ils en parlent de vive voix à leurs amis, s'ils se répandent en commentaires positifs avec de belles photos sur les réseaux sociaux, etc., ils vont effectivement drainer vers la destination des gens qui vont convaincre. Hein. Effectivement, le bouche à oreille est extrêmement efficace, mais aujourd'hui, on a le bouche à oreille 2.0 ou 3.0, comme vous voudrez, qui est le bouche à oreille amplifié par les nouveaux médias et en particulier les réseaux sociaux. Voilà, et j'arrête là parce que je crois qu'on a été déjà très long.